En 2013, peu avant de partir au Togo, nous avions un comité missionnaire, un conseil d'administration de la mission AMI en Alsace, qui s'était réuni, qui nous avait écoutés sur les projets dans lesquels nous allions être investis. Et, excusez-moi, on a pu présenter les différents ministères, surtout celui de l'hôpital. Et puis à la fin du comité, on a discuté avec les gens. Et un homme d'origine africaine, membre du conseil d'administration, est venu me voir. Et il m'a dit ces quelques paroles, dont je me souviens très bien, et qui m'ont marqué, en fait, ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris davantage avec le temps. Il m'a dit, si vous les aimez, ça ira bien. C'est bien les projets là, c'est bien. Si vous les aimez, ça va bien se passer. Et intérieurement, je me suis dit, ah oui, je les aime. J'ai quitté ma carrière, je vais quitter ma famille, je vais quitter l'Alsace, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Et puis, je les aime, forcément. Mais avec le temps, vraiment, j'ai réalisé que j'avais besoin que le Seigneur me donne un cœur qui aime, un cœur avec son amour qui peut être déversé autour de moi, à travers des conflits, des difficultés, à travers peut-être de la lassitude de la vie, des répétitions du ministère parfois, un cœur renouvelé dans l'amour du Seigneur. Et encore plus aujourd'hui avec la séparation. On a investi avec beaucoup de personnes, je vous ai montré quelques photos de ces chers frères avec lesquels on a pu investir et qui ont aussi investi en nous. Cette relation qui est là, on ne veut pas qu'elle s'arrête, on ne veut pas l'oublier. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec la distance, le Seigneur peut renouveler ce cœur d'amour pour nos frères et pour nos sœurs? Et ça m'a fait penser à un texte dans la parole de Dieu, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 3. Un texte qui m'a vraiment invité, qui m'a encouragé à continuer à manifester mon amour envers mes frères et sœurs là-bas, en les encourageant, en les affermissant dans la vérité. Je vais simplement lire ce texte. Éphésiens, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 5. Si vous avez vos Bibles, pour suivre avec moi. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Quelques mots de contexte avant de continuer dans l'étude de ce texte ensemble. On est dans la lettre aux Thessaloniciens. L'église de Thessalonique, la jeune église, a été implantée par Paul dans son deuxième voyage missionnaire à peu près autour des années 50 et il n'a pu rester qu'un temps très court à cause d'une persécution forte dans cette ville. Il a dû partir précipitamment pour Bérée avec Silas et Timothée. Thessalonique, c'était un peu ce qu'on appelle la mère de la Macédoine. Une ville forte, d'une grande renommée, avec beaucoup d'influences aussi qui s'y mélangeaient, et l'évangile a suscité la persécution de la part des juifs, particulièrement, qui étaient là à la poursuite de Paul. Ils ont dû partir. Et peut-être se mettant à la place des Thessaloniciens, on peut se dire, est-ce qu'ils entendaient derrière eux, quelque part, certaines rumeurs ? Paul est venu dans cette ville, il y est resté un court temps avec ses compagnons. Il y a des disciples, des hommes et des femmes qui se sont donnés au Seigneur Jésus, qui le suivent et qui maintenant connaissent les difficultés. Est-ce que ces gens, peut-être, étaient dans une situation difficile en train de se dire « Ah, est-ce que Paul ne nous a pas abandonnés ?» Finalement, les difficultés que nous avons, est-ce qu'elles sont liées à ce chemin-là que nous suivons? Et peut-être à cette tentation qui était là sur eux. Peut-être qu'ils entendaient cette petite voix qui leur disait « Nous comprenons parfaitement comment vous avez été égarés par ces étrangers enthousiastes qui venaient de Philippe. On vous a fait croire qu'ils avaient votre intérêt à cœur, mais leur départ soudain et le fait qu'ils ne reviennent pas vous voir prouve clairement qu'il ne se soucie pas du tout de vous. De plus, les choses qui vous sont arrivées depuis leur arrivée montrent que les dieux ne sont pas contents de vous. Pourquoi échangez-vous ce qui a fait ses preuves contre quelque chose de nouveau ? Rejoignez nos rangs de nouveau, les rangs de ceux qui vous ont toujours admiré et respecté, et nous vous promettons que nous n'aborderons plus jamais le sujet. C'est un texte imaginaire qui vient d'un des commentaires de Hendrickson sur Thessaloniciens, mais qui reflète peut-être ce genre de pensée ou de rumeur ou de petite voix derrière l'oreille qu'il devait y avoir chez les Thessaloniciens face aux épreuves qu'ils étaient en train de traverser. Est-ce que Paul nous a abandonnés ? Est-ce que les dieux sont contre nous ? Ce genre de pensée. Et Paul, lui, connaît très bien la situation à Thessalonique et il tient énormément à eux. On peut dire même qu'il les aime d'un amour tellement fort. Regardez avec moi dans le chapitre 2 quelques versets simplement pour l'illustrer. Mais ça transparaît tout au long de la lettre. Il dit au verset 7, chapitre 2, « Nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Waouh ! Quel amour ! Quel sentiment il a pour les Thessaloniciens. On continue, verset 11 simplement, « Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Ça touche. Paul a une relation vraiment, les Thessaloniciens lui tiennent particulièrement à cœur. Il connaît leur contexte. Il sait qu'ils ont reçu l'évangile avec ferveur et qu'ils ont dû partir rapidement, qu'ils n'ont pas pu être fondés vraiment beaucoup dans leur foi. Il tient à eux. Il ressent ce fardeau pastoral pour les Thessaloniciens. Il a déjà envoyé Timothée pour les encourager, comme il le dit dans ces passages. Et dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, on va voir certaines facettes de l'amour que Paul éprouve pour les Thessaloniciens et comment ça se manifeste. D'abord, un amour qui se sacrifie, verset 1 et deuxième partie du verset 2. Finalement, quand on lit ce passage, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Paul redit encore ces choses-là, des choses qui se sont déjà passées ? Les Thessaloniciens le savent, eux-mêmes le savent. On a envoyé Timothée pour faire ceci, cela. Eh bien, pour les encourager encore une fois, en leur rappelant encore une fois qu'il ne les a pas oubliés et qu'il a consenti à des sacrifices importants en envoyant Timothée, pour les affermir et pour les encourager. Pourquoi est-ce que je parle de sacrifices importants ? Eh bien, déjà, on va regarder quelques évidences. Déjà dans le livre des Actes, au chapitre 17, qui nous retrace ce qui se passe à Thessalonique, eh bien, on voit que quand, je vais lire simplement le verset, ils étaient, après être allés à Thessalonique, ils sont allés à Bérée. Et à Bérée, ça a encore chauffé. Paul a dû partir. Silas et Timothée sont restés à Bérée. Et puis, Paul a continué son voyage et il a jusqu'à Athènes. Et ensuite, on arrive au verset 15 et il dit « Ceux qui accompagnaient Paul, donc le conduisirent jusqu'à Athènes, puis, s'ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. On voit que, déjà, ça donne illustration qu'il travaillait en équipe, Paul ne voulait pas rester seul, que Timothée et Silas doivent les rejoindre au plus tôt. Ça donne déjà un peu un indice sur leur manière de travailler ensemble. Et puis en regardant ce texte de Thessaloniciens, en voyant le cheminement de la pensée que Paul exprime dans ce passage, « N'y tenant plus », verset 1, « C'est pourquoi n'y tenant plus, nous avons jugé bon ». Et encore une fois, « N'y tenant plus » au verset 5. On voit que la décision qu'il a prise d'envoyer Timothée, on ressent que ça n'a pas été une décision facile. On ressent qu'il y a eu peut-être tout un cheminement, une recherche de la volonté de Dieu par rapport à cette situation. Timothée, on a besoin de lui ici. Dans le verset qui suit encore, on voit que Paul en parle comme d'un collaborateur et d'un serviteur de Dieu. Il a son rôle dans cette équipe, Paul, Silas et Timothée. Et c'était certainement pas le premier plan de le laisser partir et quitter cette équipe. Mais n'y tenant plus, nous avons finalement, je rajoute le finalement, mais nous avons jugé bon de rester seul à Athènes. De rester seul à Athènes. Et puis peut-être encore, est-ce que Timothée était prêt pour cette mission dangereuse? Est-ce que Timothée était prêt pour partir au loin? Lui qui avait aussi une relation particulière avec l'apôtre Paul, est-ce que Paul, vraiment ça lui a coûté de l'envoyer? On peut imaginer quand on voit la nature de leur relation. Mais en tout cas, en voyant tout cela, on voit que c'était pas quelque chose de forcément facile d'envoyer Timothée, mais il l'a fait. Il a accepté de rester seul à Athènes et d'envoyer son fidèle disciple Timothée. Alors, l'amour ici de Paul se sacrifie pour les Thessaloniciens. Et ça, c'est une démonstration pour eux qu'il ne les a pas abandonnés. Et puis ensuite, dans la suite de ce passage, on voit un amour qui encourage et qui affermit. Donc, Paul a envoyé Timothée pour affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Le danger était là, et Paul le savait très bien que les Thessaloniciens cèdent face à la forte tentation, la persécution qu'il y avait sur eux à Thessalonique. Et Paul le savait, et il avait réellement ce fardeau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Timothée. Très certainement, le tentateur était à l'œuvre avec des fausses pensées comme, par exemple, vous souffrez parce que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est à cause de ce Paul que vous souffrez. J'imagine simplement ce genre de pensée à base du contexte et de l'étude de la lettre. Vous souffrez parce que votre Dieu n'est pas au contrôle. Les dieux ne sont pas contents avec vous. Peut-être dans leur contexte fortement païen, c'est ce genre de pensée qu'il pouvait y avoir. Ou bien encore, peut-être j'en ai pas fait assez pour mériter la faveur de Dieu. Mais Paul leur a déjà dit, comme on le voit dans le verset 3 et 4, il leur a déjà dit et il leur redit encore. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. L'amour de Paul pour les Thessaloniciens encourage. Il dit la vérité. Et l'amour dit la vérité. Il ne leur présente pas un faux évangile. Vous savez, ce genre d'évangile qui pourrait leur dire « Mais tout ira bien. T'inquiète pas, Dieu va le faire. Dieu va ouvrir toutes les voies. Ça va être facile. » Peut-être même jusqu'à parler d'un faux évangile de la prospérité. Mais comme le dit MacArthur dans son commentaire, on est encouragé aujourd'hui à s'attendre aux difficultés en vivant en tant que chrétien dans un monde placé sous la domination de Satan. On est encouragé à ne pas voir cette souffrance comme le signe que Dieu nous a abandonnés, mais plutôt comme la preuve qu'il est avec nous et qu'il accomplit son œuvre de perfectionnement en nous. Alors Paul recentre les Thessaloniciens sur la vérité. Vous savez vous-même que ces épreuves, nous y sommes destinés, mais pour les encourager et pour les affermir, et ça c'est une preuve d'amour. À l'inverse, dévier de la vérité, raconter ce que l'autre peut-être voudrait entendre, ça c'est pas de l'amour. Ça c'est pas de l'amour, c'est peut-être la solution de facilité, mais c'est pas de l'amour et ça ne marche pas. Et dans cette présentation de cette réalité que les souffrances sont là, il y a aussi une source d'encouragement qui est présentée. D'abord, pour sortir un peu de Thessaloniciens, mais nous ne sommes pas seuls et nous sommes à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur le chemin de Jésus, Jean 15, verset 20 nous dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est bon de savoir que nous marchons à la suite de Jésus, que Jésus lui-même est passé par ce chemin-là. Nous marchons dans ses pas, dans les pas, dans la voie qu'il a ouverte pour nous. À la suite de Jésus, oui, les souffrances sont là, mais nous marchons derrière notre Seigneur, notre Sauveur, qui est capable de comprendre et de compatir à nos faiblesses. Et puis, nous marchons aussi équipés. La joie du Saint-Esprit, c'est ce que Paul dit au chapitre 1, verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Une joie surnaturelle, une joie que l'homme ne peut pas comprendre s'il n'est pas illuminé, éclairé par Dieu, la joie du Saint-Esprit qui a caractériser les Thessaloniciens dans leur réception du salut. Et puis encore, ils ne sont pas seuls dans ce chemin-là. 1 Thessaloniciens 2,14 dit « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux, qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Ils ne sont pas seuls à marcher sur ce chemin. Les autres aussi traversent ces épreuves. Et tous ensemble marchent à la suite de Jésus-Christ. Et fortifiés, encouragés par le Saint-Esprit vivant en nous. Et puis encore une fois, Paul souffre aussi avec eux. Comme on l'a lu dans ces versets 3 et 4. Celui qui est venu leur annoncer cette bonne nouvelle. Lui-même est en train de passer par ces mêmes difficultés d'opposition, de persécution, de souffrance. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, comme vous le savez. Paul lui-même a traversé des épreuves, et il en a traversé beaucoup. Si vous lisez par exemple 2 Corinthiens, vous voyez un peu cette liste qu'il fait à un moment donné à la fin de la lettre. Il encourage par sa propre vie et il recentre sur les vérités de la parole de Dieu. Non, ces épreuves, c'est pas parce que Dieu vous a abandonné. C'est pas parce que moi, je vous ai abandonné. Ça fait partie de la route, mais nous marchons équipés. Nous marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, pour terminer sur Paul, comme on est à Genève, je me dois de citer Calvin dans son commentaire qui dit que nous sommes, ou du moins nous devrions être, stimulés par les exemples de ceux qui nous ont instruits dans la foi, comme il est dit à la fin de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 13, 7. De même, Paul espère les fortifier par son exemple, afin qu'ils ne cèdent pas sous leurs afflictions. Vous souffrez, mes chers frères. Moi aussi, je souffre. Je suis dans ce combat. Nous y sommes ensemble. Et nous persévérons. Nous tenons bon ensemble. Et puis, Paul va plus loin encore. Et il va, pour les rassurer dans cette suite de textes, pour les rassurer qu'il n'a pas abandonné son œuvre. Et il leur rappelle que derrière leurs épreuves, le tentateur est à l'œuvre également. Et Paul veut manifester cet amour qui protège aux Thessaloniciens. Il dit au verset 5, « Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. » Les Thessaloniciens sont là face aux ruses du tentateur dont nous avons parlé. Peut-être cette tentation d'abandonner ou d'écouter peut-être les rumeurs qui circulent dans la ville. Encore une fois aussi peut-être de céder face aux multiples tentations qu'il devait y avoir dans une ville tellement grande et importante dans laquelle beaucoup d'influences se mélangeaient. Et quand on voit ces influences, on se dit aujourd'hui, waouh, on y est aussi, n'est-ce pas? Toutes ces influences qui sont là pour nous tenter, peut-être nous faire dévier de la voie que le Seigneur nous appelle à suivre. Et Paul dit, ils craignaient que le tentateur les ait tentés et d'avoir travaillé en vain. Et puis dans ce verset-là, il y a une évolution par rapport au verset 1 où il commence pareil, n'y tenant plus, ou bien dans d'autres traductions, il dit dans mon impatience. C'est des mots qui sont forts, n'est-ce pas? Des mots qui expriment vraiment un ton très fort de cette affection que Paul a pour les Thessaloniciens. Mais au verset 5, il passe du « nous », du verset 1, à « je ». Ça devient encore plus personnel. Il dit « n'y tenant plus, je l'ai envoyé ». Sous-entendu, j'ai envoyé Timothée, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi. Là, quelque part, Paul accentue encore plus son affection personnelle qu'il a pour les Thessaloniciens. Je l'ai envoyé. Cette urgence, elle est là, comme on l'a dit, parce que le tentateur est à l'œuvre et que Paul craint qu'il n'ait travaillé en vain. Est-ce que les Thessaloniciens veilleront? Est-ce qu'ils seront sobres, comme il leur demande à la fin de cette lettre, deux fois, au 1 Thessaloniciens 5, versets 6 et 8, à deux reprises, il les invite à veiller et à être sobres, ou encore à revêtir la cuirasse de l'amour, comme on peut le lire au verset 11. Les Thessaloniciens, comme nous aujourd'hui, sont environnés d'un monde qui dit quelque part, comme il est dit au chapitre 5 encore, paix et sécurité. Même s'il faut avouer qu'aujourd'hui quand même ça chauffe pas mal sur la terre, n'est-ce pas? Mais quand même, paix et sécurité dans le sens, pas besoin de Dieu. Non, surtout, pas besoin de Dieu, vivez votre vie sans Dieu. Prenez la voie facile. Le chemin qui est large, comme tout le monde. Quittez votre chemin étroit. Et en même temps vos épreuves. Le tentateur est à l'œuvre. Alors qu'est-ce que fait Paul dans cette situation? Pour reprendre un peu l'ensemble de ce passage et même de la lettre aux Thessaloniciens. D'abord, Paul prie. Et c'est assez touchant de voir ce verset 10 où Paul décrit de la manière dont il prie. Regardez, nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Ça me met dans mes petites baskets. Ça me met dans mes petites baskets et je me dis, waouh, quel exemple. Nuit et jour. Il essaye d'aller les voir. Chapitre 2, verset 18, nous dit qu'à deux reprises, Paul a essayé de retourner à Thessalonique pour les visiter, pour pouvoir les encourager. Mais Satan l'en a empêché, ça n'a pas marché. Il essaye d'aller les voir, leur rendre visite. Quelque part, on a à apprendre de ça. Et c'est vrai qu'au Togo, ça faisait vraiment partie de la culture, c'était même presque une nécessité d'aller visiter, d'aller saluer, sans en prévenir, même forcément. On frappe, on va saluer, on passe un temps, et ça veut dire beaucoup pour la personne que l'on va visiter. Ça veut dire beaucoup. Et peut-être on a quelque chose à apprendre de cette culture, en tout cas dans la spontanéité des visites, et l'importance que ça a pour encourager. Je me souviendrai toujours d'une des visites qu'un de nos pasteurs, quand on était en Alsace, a fait un dimanche soir. Ça a frappé à la porte, on ne l'attendait pas. Et avec sa femme, ils étaient juste venus pour nous visiter. Combien ça nous avait marqué et encouragé. Et puis, la troisième chose qu'il fait, il envoie Timothée pour s'informer. Et il y a trois verbes qui sont décrits pour l'action de Timothée, en tout cas, affermir, encourager, et verset 5, s'informer. S'informer de leur foi. Et puis il écrit une lettre d'encouragement. Un Thessalonicien est cette lettre. Et puis il y aura deux Thessaloniciens encore après. Et puis des visites qui suivront. Mais il écrit cette lettre dans laquelle il les encourage encore plus. Et regardez un peu avec moi dans le chapitre 1 la manière dont Paul s'est encouragé. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à apprendre là-dessus. Alors je sors de mon passage, mais simplement, « Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Et en fait, vous pourriez lire tout le chapitre 1 pour voir la force avec laquelle Paul encourage. Je veux dire, les Thessaloniciens reçoivent un encouragement béton au début de cette lettre. Waouh ! Le témoignage qu'ils ont au milieu des persécutions, eux qui sont finalement de jeunes chrétiens. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre de l'encouragement ? En tout cas, moi, en tant que bon français, je suis aussi suisse, mais c'est le côté français, on a travaillé avec une équipe d'Américains pendant 12 ans. Il faut quand même dire une chose, ils sont plus doués que nous pour encourager. En tout cas, plus doués que moi. Et j'ai beaucoup appris de eux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quelque part pour encourager nos frères et sœurs qui sont peut-être dans des moments difficiles? Il encourage. Et puis, il exhorte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chapitre 5 est rempli d'exhortations, parfois très concrètes, très précises, même très courtes. Priez sans cesse. Je peux en lire quelques-unes, mais simplement, il exhorte. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Il exhorte vraiment les Thessaloniciens dans leur marche avec Dieu. Et il leur rappelle aussi leur espérance du salut. Chapitre 4, ce jour où ils seront en présence de Jésus-Christ, ce jour où Jésus reviendra. Et puis dans cette même direction, il leur rappelle la responsabilité finalement de l'Église pour s'encourager. S'encourager les uns les autres. Il le dit au chapitre 5, verset 11, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. » Paul n'est pas avec eux, mais eux, ils sont là, à Thessalonique. Et ils ont cette responsabilité de la vie d'une église, finalement, de s'encourager les uns les autres. De faire ce que Paul a pour les Thessaloniciens, que eux-mêmes puissent le faire les uns envers les autres. En cela, il est un exemple pour que peut-être cet exemple soit répété entre eux. S'encourager les uns les autres. S'édifier les uns les autres. Ça, c'est pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un beau programme pour nous dans ce passage, dans la lettre, mais dans ce passage où Paul témoigne d'une manière tellement forte le souci pastoral, l'affection, l'amour qu'il a pour les Thessaloniciens? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous pouvons apprendre dans nos relations les uns envers les autres, dans la manière dont nous le faisons les uns envers les autres, et peut-être même des chrétiens, des gens dans lesquels vous avez pu investir il y a des années? De voir comment tu vas. Il y a un moment, on prie, et c'est vrai, on prie, comme à l'exemple de Paul, on prie pour ces personnes. Mais il y a un moment où on n'y tient plus et on a besoin d'avoir des nouvelles, on a besoin de savoir pourquoi prier. En ça, ma femme est vraiment un exemple pour moi, parce que en même temps qu'elle prie, elle envoie des messages pour demander des nouvelles. On prie, on demande des nouvelles. Est-ce que peut-être on a d'autres choses à apprendre de cette liste, d'aller visiter, d'encourager, d'exhorter par la vérité de la parole de Dieu aujourd'hui, que non, les ruses du tentateur ne tiennent pas, mais que nous y sommes destinés à ce qui nous arrive. Ça fait partie du plan, du chemin, et nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Le chemin étroit, certes, mais le bon chemin. J'aimerais simplement terminer par un verset dans le chapitre 3 qui enfonce le clou encore davantage sur cette affection que Paul a pour les Thessaloniciens. Il dit au verset 8 « Maintenant, nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. » Vous sentez un peu le cœur de Paul ici. « Maintenant, nous vivons. » Nous sommes rassurés, nous avons eu des nouvelles que vous tenez bon. C'est pas fini, on continue à prier pour vous, on continue à combattre ensemble, mais nous sommes rassurés. Quel amour, quelle affection. Alors que ça puisse vraiment nous inspirer, encore une fois, dans nos relations les uns envers les autres, dans notre famille, avec nos parents, nos enfants, nos conjoints, notre conjoint. Dans notre église, dans les différents endroits où nous avons pu passer, où nous pouvons continuer à investir. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir WhatsApp ou des moyens de communication comme jamais auparavant pour demander des nouvelles, pour encourager même parfois à distance, même pour voir la personne sur un écran comme ça, en direct. Même en pleine brousse, ça marche. Alors qu'on puisse continuer et ensemble progresser dans ce domaine-là à l'exemple de l'apôtre Paul et de son amour pour les Thessaloniciens.